Bonsoir, bienvenue à un arrêt sur image exceptionnel pendant lequel nous allons relire ensemble les grandes images de la vie et de la mort de François Mitterrand.
Bonsoir François Mitterrand, personnage complexe, sa vie politique, les années au pouvoir, les parts d'ombre finalement dévoilées, la maladie, la mort. Nous allons effectivement revoir toutes ces images fortes en compagnie de nos deux invités. D'abord Régis Debray, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là, vous êtes écrivain, philosophe et vous avez été conseiller de François Mitterrand jusqu'à quelle année ?
88.
À vos côtés, Edoui Plenel, merci également de votre présence et bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Monde. Vos échanges, vos regards nous intéresseront. Alors, deux funérailles hier, Daniel, pour François Mitterrand. Paris, Jarnac et des arrêts sur images fortes.
Oui, des images très fortes à Paris et à Jarnac. Il était évidemment impossible de les choisir toutes. Et tout à fait arbitrairement, j'en ai choisi deux qui sont pour moi peut-être les plus saisissantes et qui sont d'une nature très très différente.
Et tout à l'heure, à l'image, la jeune femme blottie avec un manteau.
Ben voilà, à l'image, justement, Mazarine, la fille naturelle du président avec sa mère. Les larmes d'Helmut Kohl sur ce très beau chant interprété par la maîtrise de Notre-Dame de Paris.
Alors pourquoi ces deux-là ? On pouvait en choisir, j'imagine, bien d'autres, et vous allez en dire un mot tout à l'heure, mais pour une raison très simple. D'abord parce qu'elles sont très différentes, et que quelque part, en même temps, la télévision les rend un peu semblables, puisque ce sont deux images émues et émouvantes, de deux personnages émus. Et pourquoi ces deux-là ? Parce que d'abord, des larmes sur l'injoue d'un puissant s'agissant de Kohl, c'est toujours inhabituel. Comme si un puissant ne devait pas avoir de corps, comme s'il ne devait pas avoir d'émotion. Et voir donc une larme perler au coin de la paupière, c'est toujours quelque chose de très surprenant. Et puis pourquoi Mazarine ? Parce que Mazarine, c'est en quelque sorte, Mazarine ainsi projetée à la lumière sur la piste de la base aérienne de Cognac, c'est comme un dernier pied de nez de François Mitterrand à la France. Elle a été longtemps cachée, sa fille a été dévoilée ensuite dans les derniers mois de la vie de l'ancien président. Est-ce qu'il l'a voulu ? Est-ce qu'il l'a subi ? La lumière n'est pas parfaitement établie là-dessus. Mais la projeter de cette manière-là, il y a là un dernier pied de nez aux conventions, m'a-t-il semblé.
Régis Debray, vous auriez fait les mêmes choix, évidemment subjectifs, sur ces obsèques ?
Oui, je dois avouer ne pas pouvoir encore faire de choix.
J'étais
très ému. Je reste très ému à voir ces images. Je n'ai pas envie d'être intelligent dessus. Je n'ai pas envie d'être critique ou analytique.
Même simplement l'émotion aussi ?
Mais, si vous voulez, ces moments sont tellement rares dans la vie d'une république que je me suis plongé dans cette sorte de pathos, peut-on dire, et je le dis sans aucune ironie. J'ai été ému par ces cérémonies. Alors évidemment, on a des souvenirs qui reviennent. Les doubles funérailles, c'est quelque chose qui est né avec les Capétiens. Vous savez que quand on enterrait les rois de France, il y avait un enterrement physique d'un côté et un enterrement symbolique de l'autre. La nouveauté, c'est qu'ils sont simultanés, là, maintenant, grâce aux moyens de... Par exemple, quand Saint-Louis meurt à Tunis, on fait bouillir le corps, on enterre les os, et ensuite, on fait un mannequin de Saint-Louis, et on enterre le mannequin 40 jours après. Ben là, on a eu les deux événements, n'est-ce pas ? Les deux corps du roi, le corps physique et le corps théologique, et on les a eus simultanément sur le même écran. Et... De façon générale, écoutez,
ce qui était sans précédent, c'est la gestion de la République, d'ailleurs, cette simultanéité.
Oui, ça, c'est un des acquis de la vidéosphère. Il est vrai qu'au moment de Gaulle, je crois que nous n'avons pas eu cela, mais je n'étais pas là. En tout cas, ce qui s'est exprimé ces derniers jours, je crois, c'est un immense besoin de nation, un besoin de France, qui a investi le corps du prince, qui a investi le corps du roi. Les deux corps du roi, et ma foi, je ne boude pas ma tristesse, si j'ose dire.
Et de Plenel ?
Je suis évidemment d'accord avec cette idée des deux corps du roi, là, qu'a développé Kantorowicz, qui est qui s'est mise en scène là sous nos yeux. Mais moi, j'ai le même embarras que Régis, c'est-à-dire pour sélectionner. C'est-à-dire, ce qui m'a plutôt frappé, c'est le déluge d'images. Et je me dis, au fond, on prendra la mesure de cette émotion. Je ne sais pas si on peut dire exactement quelle demande s'est exprimée. Hein. On peut aussi rapporter ce qui s'est...
Est-ce que vous avez été comme lui, ému par le spectacle des funérailles ?
Moi, pour une raison très simple, j'ai été ému, en fait, plutôt par je crois que c'est chacun dans sa condition personnelle, quoi. C'est-à-dire, étant coincé au journal, le soir, plutôt à la Bastille, bien que ce ne soit pas du tout le bon tempo pour le temps des cerises, tel que l'a chanté Barbara Hendricks. Bon, tout seul... fin de journée, mais bon, moi je veux dire, soyons pas hypocrites, hein, on fait un journal en temps réel, là l'émotion n'a pas sa place. Mais
parfois quand même.
Si. Non, mais elle n'a pas sa place parce qu'on n'a pas le temps, on est dedans, on n'a pas d'écran, on n'est pas. Tout ça est hélas un peu à distance. Mais je reviens sur le déluge d'images, parce que je crois que quand même ce qui s'est joué aussi. C'est le premier décès de quelqu'un, y compris surtout dans le rapport des jeunes. À cet événement, de quelqu'un que la télévision a rendu familier. C'est la première fois. C'est-à-dire qu'on le voit chez les jeunes qui ont parlé dans les reportages qu'on a lus, etc. C'est quelqu'un qui faisait partie totalement de leur univers. Au-delà hein, du tonton anecdotique, etc. C'est-à-dire que les jeunes disent pas seulement c'est le seul président qu'on a connu. Hein. C'était leur univers, jusqu'au Guignol, jusqu'à tout ça, etc. Et la comparaison, je crois qu'on y reviendra par rapport à des très grandes funérailles qui furent nationales, celle-là comme celle de Victor Hugo. Victor Hugo, quand il meurt en 1885, il est déjà dans les manuels scolaires, parce qu'il meurt si vieux. Et donc, il y a une émotion qui surprend tout le monde, parce que Victor Hugo, eh ben, on l'apprend à l'école, et on interroge, on apprend la vie de Victor Hugo, toujours vivant, sénateur à l'époque, on apprend la vie de Victor Hugo à l'époque. Et là, ça se passe plus dans les manuels, ça se passe à la télévision.
Mais il y a quelque chose quand même d'un peu comparable.
Il y a quelque chose d'un peu comparable, y compris, je dirais peut-être, parce qu'on verra, toujours comparaison, Victor Hugo, c'est entre la Commune de Paris et l'affaire Dreyfus, donc il y a l'événement crisique, et puis il se passe d'autres choses après. Ne sous-estimons pas non plus aussi l'aspect saturation. L'aspect saturation a existé aussi.
Alors, beaucoup de choses déjà, on va reparler de tout ça. Corps physique, corps théologique, vous parliez des jeunes. Nous sommes allés demander aux collégiens d'une classe de 3e, c'est au Peigne dans les Yvelines, ce qu'ils avaient retenu de cette cérémonie et de ces doubles funérailles.
On était tous plus ou moins émus, mais même nous, ça m'a émue un peu parce que nous, on n'a connu que Mitterrand. On fait partie de la génération Mitterrand.
L'ambiance à Jarnac qui était familiale a été simple. C'était surtout les proches ou les habitants qui connaissaient plutôt l'homme. À Notre-Dame, c'était plus officiel, moins chaleureux.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque le contraste entre les deux images. On voit d'une part le faste de Notre-Dame et de l'autre l'austérité de Jarnac.
Pour moi, Notre-Dame, ça servait pas à grand-chose. Enfin, à lui rendre hommage, mais c'était plutôt un spectacle. Parce que non, mais c'est vrai, quand il n'y a pas le corps et tout ça, c'est pas pareil. Comme à Jarnac, le cortège se déplaçait, c'était plutôt les caméras mobiles. En fait, c'était, on va pas dire improvisé, mais... ça suivait comme ça venait. Alors que à Notre-Dame, les caméras étaient fixes, et donc ce qui permettait de prendre plusieurs plans, puisque rien ne bougeait en fait.
Je crois que la cérémonie de Jarnac correspond avec l'homme qui était Mitterrand dans la vie, et comment l'image à Notre-Dame correspond à sa vie de président, avec tout le faste, les lumières, les projecteurs, les caméras, tandis que l'intimité, c'est plutôt... comme il était dans la vie, la simplicité, tout ça.
Je pense que la plus belle image est celle de Jarnac, parce qu'elle est beaucoup plus intime.
En marchant dans les rues, c'est pour rendre plus hommage et pour dire au revoir à toute la population d'une façon poétique, mais pas poétique dans le sens de l'émerveillement, mais poétique dans le sens de la tristesse.
Poétique dans le sens de la tristesse. Finalement, ils sont pas si loin de ce que vous dites, Régis Debray.
Oui, ils sont trop intelligents, ces enfants. Il n'y aura plus de naïfs bientôt en France. C'est dommage.
Même
les enfants de... Bah oui, moi, je crois qu'il ne faut pas trop analyser l'image. Eux le font très bien.
Vous aussi, de temps en temps, quand même.
Non. Enfin, bref, je rêve autour de l'image, mais je ne les analyse pas aussi bien qu'eux. Mais, enfin, ce qui me frappe, évidemment, c'est que on parle de l'homme et pas de la politique. Et évidemment, à cet âge-là, c'est normal, mais au fond, toute la France a été comme eux, quoi. La France s'est en quelque sorte dépolitisée tout d'un coup pour retrouver l'histoire. C'est-à-dire, elle ne s'est pas déshistorisée, car au fond, il y a tout un inconscient national qui est réapparu, qui est l'inconscient de la royauté sacrée, on en a dit un mot tout à l'heure, et qui est tout de même aussi cet inconscient catholique, assez étonnant, n'est-ce pas ? Car l'étonnant n'est pas Notre-Dame. Notre-Dame est un lieu rituel, je dirais, de Te Deum. Je crois qu'il a été utilisé pour les précédentes funérailles des présidents.
De la Ve République.
De la Ve République. L'étonnant, c'est Jarnac, c'est l'église de Jarnac, n'est-ce pas ? Et au fond, il y a une vérité dans tout cela.
Pourquoi c'est étonnant, Jarnac ?
Eh bien que François Mitterrand se soit fait, je dirais, enterrer religieusement, tout de même, avec une messe.
J'ajouterais dans les petits détails aussi, on a tous assisté à ça, confronté à des choix, le fait qu'il y ait eu une croix sur le cercueil.
Pour un homme de gauche, c'est apparemment étonnant. Pour Mitterrand, ça ne l'est pas, car Mitterrand est la somme. Mitterrand, c'est l'addition d'abord des laïcs et des catholiques, et puis c'est aussi la France, et la France est catholique depuis 1000 ans, et c'est plus fort que lui, ça le traverse, ça nous traverse, et quand on veut, je dirais, retrouver une solennité en profondeur, on retombe très vite sur cette souche chrétienne. Hein. C'est né au champ catalonique, tout ça. Enfin bref, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sacre pour Mitterrand, mais il y a eu ces funérailles sacrales, on peut dire, y compris dans leur simplicité.
Il n'y a pas eu de sacre, on va parler dans un instant du Panthéon, mais enfin, il y a eu quand même une cérémonie.
Panthéon, c'est le sacré républicain, c'est autre chose.
On va parler du Panthéon, mais cette dimension religieuse. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis plutôt Bastille que Notre-Dame ou Jarnac. Mmh. Bon, Jarnac, c'est la famille, c'est son choix, c'est l'homme privé, donc c'est, à la limite, je dirais, bon, on a connu ou on n'a pas connu. Hein, bon. Mais moi, je me suis senti dans l'exclusion, un peu. Je suis d'accord avec le constat, mais il exclut. Il n'y a aucune raison. Si on reste seulement sur les faits, François Mitterrand ne dit pas Notre-Dame. Hein. Il dit une messe n'est pas exclue, il met en ordre
dans ses dernières volontés.
Okay. On sait que Jacques Chirac aurait espéré, on va reparler de son oraison funèbre, aurait espéré des funérailles nationales, qu'il y ait des volontés comme ça. Il n'y a pas de funérailles nationales, mais la République doit honorer cet homme qu'il a présidé pendant 14 ans. Okay. Régis Debray dit c'est un lieu neutre, c'est Notre-Dame, c'est le cœur de Paris, etc. Je dis c'est pas un lieu neutre. C'est pas l'histoire.
C'est un lieu catholique, il le dit.
C'est un lieu catholique.
Mais dit la France est un pays catholique.
Non, mais la France est un pays catholique. La France, je veux dire, elle n'est pas. S'il y a bien séparation de l'Église, il n'y a que culturellement, que de l'ordre de la relation privée aux choses. Bon, mais autant que je sache, je veux dire, c'est bien une bataille, ça a mis un siècle pratiquement. Bon, c'est bien une bataille profonde qu'a menée la République. Je veux dire, je te prends un exemple même, puisqu'on faisons de la politique un peu. Mm-hmm. On se bat contre le communautarisme, on se dit qu'on se bat par rapport à d'autres cultures religieuses qui voudraient vivre totalement dans leur identité, dans l'affirmation de leur identité. Bon. Quelle image donne la République intégratrice en disant voilà comment nous honorons nos hommes dans un rite particulier.
Enfin, c'est pas une surprise, comme on le disait. Il y a eu De Gaulle, il y a eu Pompidou. Non, c'est une espèce de tradition.
C'est pas une surprise, autant que je sache. Oui. François Mitterrand s'est battu contre certains aspects de la Ve République, et il a bien fait. Peut-être pouvait-on espérer qu'à la fin des choses soient changées. Je veux dire, encore une fois, Notre-Dame revient dans la République uniquement par De Gaulle, le Te Deum 44. Je veux dire, Notre-Dame n'est pas dans la République.
Mais vous avez parlé tous les deux de Jacques Chirac. On va peut-être, si vous permettez, parce que ça a quand même été aussi un moment de télévision fort.
Un complément à ce qu'a dit Edoui Plenel. N'oublions pas que François Mitterrand était spiritualiste. Il n'était peut-être pas pratiquant. Disons que c'était un théiste ou un déiste. En quelque sorte, grande curiosité pour toutes ces choses. Il a gardé une certaine fidélité. Enfin, ses funérailles ont été, même dans ce qu'elles peuvent avoir de décalé par rapport à nos traditions laïques, disent une certaine dimension de la personne.
Un moment de télévision très fort de la semaine a tout de même été, et on l'a tous remarqué, l'oraison funèbre de Jacques Chirac, dont on va revoir un extrait.
Il connaissait notre pays jusque dans ses villages, et partout il avait une relation, un ami. Car il avait la passion de l'amitié. La fidélité que l'on doit à ses amis était pour lui un dogme qu'il emportait sur tout autre. Et il suscita en retour des fidélités profondes au travers des années et des épreuves. Ma situation est singulière, car j'ai été l'adversaire du président François Mitterrand. Mais j'ai été aussi son premier ministre. Et je suis aujourd'hui son successeur. Tout cela tisse un lien particulier.
On est tous d'accord, ça a été un très grand moment, Régis Debray, mais est-ce que c'est un grand moment de quoi? De politique française, d'histoire de France, ou est-ce que c'est de télévision, ou est-ce que c'est un grand moment dans la psychologie de Jacques Chirac?
Tout cela ensemble, mais c'est la psychologie de Jacques Chirac, enfin, c'est la psychologie d'un président qui est intéressant. Là, tout d'un coup, un politique s'humanise. Je dirais une langue de bois tombe, il y a des accents, il y a un timbre de voix qui est tout à fait insolite chez un personnage officiel, qui est, je dirais, celui de Chirac tel qu'on peut le voir en privé. Tous ceux qui l'ont connu en privé ont vu cet homme-là.
C'est le timbre qui vous paraît insolite, ce n'est pas les mots.
Les mots sont très simples, les mots sont très bien choisis. C'est manifestement un homme qui a oublié, je dirais peut-être, la combativité qu'il a quand il veut agir sur les choses et où il se crispe et il devient, quelqu'un qui est dans la lutte et quelqu'un qui donc se guinde ou se crispe. Là, je dirais que c'est un homme qui s'est mis en roue libre en quelque sorte et qui n'a plus de référence à l'horizontale, mais une référence à la verticale avec un homme qui a disparu et donc je peut-être pense qu'il à lui-même. En tout cas, c'est très rare de voir tout d'un coup un homme qui se découvre.
Pensez pas
à tous les sens du mot.
Pensez pas que c'est évident qu'il pense à lui-même là, quand il parle du terroir, du sens de l'amitié. Vous parlez pas quand en fait il parle de lui.
Là, écoutez, peut-être un psychanalyste, moi je suis complètement rétif à la psychanalyse, donc je ne peux pas vous répondre. Peut-être qu'Edoui a plus de lumière intérieure.
Est-ce qu'il en sort grandi ?
Bien sûr. Il en sort grandi.
Y compris dans son rôle de président ?
Oui, je pense, oui. Il en sort grandi parce qu'il en sort simplifié.
Et réconcilié peut-être, non ?
Peut-être réconcilié. Alors, évidemment, une interprétation, la figure du père est mort, enfin je suis libre, c'est moi le chef, etc. Donc je peux me permettre de ne pas parler comme un chef précisément parce que je le suis devenu. Bon, mais là, je laisse à nos amis psychanalystes le soin de développer. Mais je crois qu'il s'est grandi, il n'est plus sur ses ergots, il s'est grandi en se rapetissant, je dirais. Il s'est grandi en peut-être en parlant, peut-être comme... curieusement comme un grand frère. Moi j'ai été très, très ému, je dois être très surpris, très décontenancé, comme tout le monde. Je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, encore.
Comme vous, Edouard Plenel ?
Non, moi je pense que c'est un événement. Je dirais que quand même, ne poussons pas le bouchon trop loin, c'est-à-dire c'est quand même, bon, c'est enregistré, c'est un texte écrit, donc...
Non, c'est pas enregistré, c'est en direct.
C'est en direct.
C'est en direct.
Ah oui, c'est en direct.
C'est
bon. En tout cas, bon, le texte est... Donc il l'a pensé, c'est ça que je veux dire. Bon. Non, mais est-ce que je ne sous-estime pas du tout l'événement. Je pense... Je suis totalement d'accord avec Régis Debray quand il dit que ce qu'on connaît de Chirac, c'est tout ce qu'on sait de Chirac, c'est-à-dire du contraste entre le Chirac public et le Chirac personnel. Mais bon, regardons quand même le texte. Quand on le lit, on ne l'entend pas. On oublie que c'est Chirac. On le lit. Le Monde l'a publié in extenso. On se dit, mais attendez, c'est un texte de Mauroy, c'est un texte...
C'est un texte...
À la ligne près, à la virgule près.
C'est
un texte socialiste, d'ailleurs, ça a semé un peu de troubles au sein du RPR. Donc, bon, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, pour moi, c'est un texte mitterrandien, de bout en bout. Dans le choix du moment, dans le choix des mots, dans l'habileté. Il y a de l'habileté, il y a de la sincérité, il y a de l'émotion, mais il y a de l'habileté. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai pensé depuis longtemps, je l'ai écrit, je crois que Chirac est probablement le meilleur élève de Mitterrand, du mitterrandisme comme forme de pouvoir, comme forme rapport au pouvoir, ce tête-à-queue, hein, il y a eu le tête-à-queue de la campagne électorale, après le libéralisme, il y en a eu un au moment du mouvement social, il y en a un nouveau là. Bon, bah c'est comme ça, c'est-à-dire cette école de durée très très forte, où on fait comme au judo, hein, on utilise l'événement pour se consolider. Bon, pour moi...
C'est Mitterrand qui parle par la bouche de Chirac.
Non, c'est pas ça, c'est le disciple tout d'un coup, là. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui est dit sur comment on a le sentiment que l'homme est libéré, etc. Mais c'est le disciple, c'est une école du pouvoir. On se dit, quand on lit le texte, ce que je veux dire par là, c'est quand on lit le texte, on lit quand même pas le programme du RPR. Bon, donc, je veux dire, si on regarde...
L'ombre d'une réserve...
Si on regarde, on se dit, bon, est-ce que Chirac, c'est vraiment ça, ses convictions? Ses convictions, elles sont à géométrie variable, diverses, variées. Bon, L'homme public, je parle l'homme privé, tout ce qu'il y a de plus respectable, humain, tout ce que je veux. Bon, donc, je dis, ça derrière, on a la façon dont, en effet, on a le même type de bête politique, l'histoire est différente, le personnage est différent, et qui joue, et qui peut surprendre dans cette façon de retourner des situations, de jouer, de ne pas être, en effet, d'être très pragmatique, d'être, alors, si on est méchant, on dira opportuniste, on dira pragmatique. Je crois que c'est une école du pouvoir.
Même Charles Pasqua a admis qu'il avait eu de l'admiration pour François Mitterrand. Retour à avenue du Frédéric de Play, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est donc là qu'est mort François Mitterrand. Et trois jours durant le défilé incessant de ceux qui souhaitaient lui rendre un dernier hommage. Alors pour les journalistes, c'était la chasse aux réactions, le reportage de Colomb Schneck.
La chasse aux visages connus et aux déclarations des proches qui rendent une dernière visite aux défunts est le principal objectif des équipes de télévision ce 8 janvier. Chacun a sa technique d'affût.
Non, moi je suis basé ici.
Là,
je ne bouge pas.
Et vous faites tous les gens qui rentrent, c'est ça?
Voilà.
C'est tout.
Je suis à l'affût.
Vous courez derrière eux?
Non, eux viennent vers moi.
Dès qu'une voiture approche des barrières, il faut s'empresser de filmer avant même de savoir qui est le passager.
À la dure.
Du côté de ceux qui sont filmés, on peut choisir de sortir de sa voiture et affronter les caméras. Ou rester rivé à son volant jusqu'à l'extrême limite. Autre mission des envoyés spéciaux, recruter des invités pour le journal du soir.
Votre message, on est en train de
vous
rappeler.
D'accord, pour le 20h,
bonsoir.
Non, rien du tout.
C'est concurrent? Hein?
C'est
personne.
Non. Vous avez entendu aussi sur le couvert, Védric?
Non. Non, mais...
Votre sentiment, monsieur Charras?
Votre sentiment, monsieur Charras?
De moi?
C'est personnel?
Monsieur Charras,
oui. Enfin, c'est personnel.
Monsieur Charras,
votre sentiment?
Votre sentiment... Attendez, monsieur Attali, la porte.
Et ben on l'a.
On a un sentiment.
Et ben on l'a.
Coup de pied de l'âne de Michel Charras. Alors, reste maintenant à se pencher sur les grandes images de la vie de François Mitterrand, qui n'en manquent pas. Vous disiez, vous parliez de déluge tout à l'heure, et c'est vrai qu'on en a vu des centaines et des centaines depuis lundi. Si on devait en garder une seule, Régis Debray, vous m'avez dit que pour vous, ce serait la cérémonie inaugurale du Panthéon, le 21 mai 1981. On va peut-être tout simplement d'abord se replonger dans l'atmosphère de l'époque. Vous l'aviez revu depuis, Régis Debray, avec le son des potes, la musique, les cris de victoire?
Vous allez me dire que ça vieillit. Non. On ressent bien sûr un petit malaise. Pour moi, vu à distance, le Panthéon, c'est un peu le lieu d'ambiguïté entre le symbole et le simulacre. Le symbole, c'est ce qui réunit les hommes. Le simulacre, c'est ce qui trompe les hommes. Au Panthéon, on a réuni les hommes. Le Panthéon est, contrairement à tout ce qu'on a dit sur l'outrance, la grandiloquence, le pompier, je crois que le Panthéon était un acte de modestie profond de la part de Mitterrand, qui se subordonnait en quelque sorte devant l'obligation héroïque des fondateurs
C'était vraiment un acte de reconnaissance d'une transcendance républicaine. On ne fait pas ce qu'on veut. On prolonge une histoire. La République est faite de plus de morts que de vivants, comme l'humanité. Et nous continuons ces morts. Je dirais autre chose qui me frappe par rapport à tout ce qu'on a connu par la suite, et en quoi ces images ont vieilli, vous avez raison. Elles ont vieilli parce que c'est de l'archéotélévision.
C'est-à-dire ?
La néo-télévision, elle privatise, elle familiarise, elle est anglo-saxonne. Là, nous sommes encore dans une télévision grandiloquente au sens de latine, rhétorique, grands espaces.
Pas de gros plans sur le visage ?
Pas de gros plans, une distance, une solennité.
Le spectacle quand même filmé, pardonnez-moi, était quand même sur le ton de la solennité. Et de...
C'est ce que je dis. Ouais. C'est l'archéo-télévision. Ça répond à une grande difficulté qui est de savoir comment on incarne la République. La République, c'est une idée. Là, il y avait quelqu'un au XIXe siècle qui disait « Je suis tombé un jour sur Napoléon, je me suis rallié à Napoléon. Je suis tombé un jour sur Louis-Philippe, je me suis rallié à Louis-Philippe. Je n'ai jamais rencontré la République. Je ne peux pas me rallier à quelque chose qui n'a pas de corps. La République est désincarnée. Donner une image de ce qui n'a pas de corps, c'est un vrai problème. Donc ça s'évoque par l'absence, par la musique, par les tombeaux. Il y a évidemment tout un rituel de mort. Au fond, la République, c'est le culte des grands morts. Quoi. Et là, je disais que on a commencé très haut. Mitterrand s'est donné inconsciemment des étalons maîtres, en quelque sorte. Parce qu'évidemment, tout de suite, on dira, mais enfin, Jean Moulin, c'est pas René Pousquet. Jaurès, c'est pas Tapie. Schœlcher, c'est pas Eyadema, n'est-ce pas ? La théorie est une chose, la pratique en est une autre. Mitterrand, en quelque sorte, s'est donné des verges pour se faire battre. Alors, je crois d'abord que cette lancée du septennat plongeait dans toute cette souche héroïco-sentimentale du XIXe siècle, au fond, qui est mort ce matin, et qui est peut-être mort avec François Mitterrand, je ne sais pas. En tout cas, c'était un cycle ouvert en 89, hein, qui plonge sans doute beaucoup plus dans la littérature que dans l'image, beaucoup plus dans le mot que dans l'image. Et là, je crois qu'on a atteint un vrai moment de grandeur, d'une grandeur républicaine et non pas d'une grandeur monarchique.
Tu plonges dans la littérature, mais enfin, c'est quand même une image extraordinaire.
Il faut mettre en image. Moi, ce qui me frappe, c'est l'austérité extraordinaire. Tout ça ne coûte rien. Quand vous comparez au défilé Good, qui sera le défilé de Broadway, qui sera l'antithèse.
En 1989,
moi, si j'ose dire, j'ai adhéré. J'étais déjà, bien sûr, un militant sans appartenir au Parti socialiste. J'étais un proche de François Mitterrand. Je me suis senti conforté dans mon adhésion par la cérémonie du Panthéon, qui, entre nous, a énormément déplu au parti médiatique. Il n'y a vu que le franchouillard, le rétro, etc. Et j'ai décroché au moment du défilé Good, qui était l'inverse. Et le parti médiatique a été enthousiasmé par le défilé Good, où il n'y avait plus de transcendance, où il n'y avait plus de république, où il y avait le tribalisme planétaire et américain, et le fric. Là, il n'y a pas de fric. Il y a une émotion intérieure. Et c'est, je crois, ce que le réalisateur Serge Moati a très bien rendu, quelles que soient les difficultés, les trucages nécessaires pour chacun.
Voilà. Alors vous parlez
au théâtre,
vous parlez de trucage.
Eh bien, il y a des coulisses. Au théâtre, il y a des accessoires, il y a des projecteurs, et là, c'est du théâtre. Ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas de la dépense, c'est du théâtre.
Alors vous, Plenel,
c'est un rituel.
Ce que vous y avez vu, c'est surtout les accessoires et les trucages.
Non.
Puisque c'est ce que vous avez mis en couverture de votre livre.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais je ne les ai pas mis au sens « ce n'était que trucage ».
Alors, faut vous rappeler l'histoire de cette photo, quand même, que vous mettez
dans,
en couverture
dans
de...
La Pardonne, qui est donc le livre que j'ai fait sur une sorte de contre-type, de négatif de la part de vérité de François Mitterrand. Donc, point de départ, il ne faut jamais l'oublier, c'est de dire que l'ombre suppose la lumière. Hein. Simplement, le problème, c'est qu'il y a des moments où l'ombre envahit la lumière. La Pardonne, dans ses premières éditions, avait donc une photo où on voit François Mitterrand, en effet, aller vers la lumière, mais dans l'ombre et avec tout,
au sein du Panthéon et avec tout le dispositif d'éclairage, etc. Et ça a posé un conflit.
On la voit d'ailleurs à l'écran cette photo. Et effectivement, le projecteur était très apparent sur la photo.
Et c'est la mise en scène, là, quand même.
Oui, mais vous l'avez choisie, quand même.
Oui. elle a été choisie pour ça, mais le commentaire est un peu plus compliqué. Parce que, pour tout dire, quand on a regardé les images, ce sont les seules images qui m'émeuvent, celles-là.
Des images de trucage?
Non, les images du Panthéon, si je peux me permettre, et je peux aller jusqu'au bout de ma phrase. Elles m'émeuvent vraiment. Moi, je n'étais pas au balcon de Fabius, et je n'étais pas comme journaliste. Je suis monté par un escalier de service dans une chambre de bonne, et j'ai regardé depuis un toit, quitte à tomber, comme ça. Parce que je suis archaïque de ce point de vue, moi. Ça m'a beaucoup plu qu'il rentre avec une rose, ou je ne sais plus, avec trois, et qu'il sorte avec trois. C'est-à-dire qu'il est rentré avec un nombre de roses, et il est sorti avec pas le même nombre. Ça m'a beaucoup plu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, et je veux dire au-delà, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on met en scène? La Bastille. La Bastille, c'était terrible de ce point de vue. La Bastille, mais quel rituel on invente?
La Bastille de 81.
La Bastille, celle-là. Quel rituel on invente pour parler? Je comprends tout à fait qu'on aille à la Bastille et que des gens même qui n'ont pas d'accord avec Mitterrand sur la guerre du Golfe, sur Bousquet, sur ceci, aillent à la Bastille en disant, le combat continue sur des valeurs, sur des choses comme ça. Cet homme a fait un bout de chemin, il y en aura d'autres. Et puis on est là pour nous. Bon, et quel rituel inventé? On fait chanter. Moi, je me suis même posé la question. D'accord. On fait chanter Barbara Hendricks, qui n'est pas faite pour chanter le temps des cerises, pour créer une distance.
Sans doute pas. Ouais.
Pour créer une distance. Donc, ce que je veux dire, et la Bastille, le Panthéon, j'y reviens, quand je le mets en une de la pardon, c'est pour montrer tout notre rapport à cette histoire. C'est-à-dire que le Panthéon est en effet une mise en scène. Et c'est en effet un jeu d'ombre et de lumière. Et dans lequel, au bout d'un moment, il faut rendre compte de toutes les contradictions de cette histoire. Mais en ayant l'honnêteté de dire combien on a été ému. Moi, j'ai été ému par une chose. C'est pas par Jaurès, pas par Jean Moulin en premier, par Victor Schœlcher, qui semble-t-il a été rajouté au dernier moment. J'ai grandi dans une famille où on ne parlait que de Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, c'est la France et le monde. C'est la France et la libération des autres. C'est la lutte contre l'esclavage. C'est-à-dire, c'est la place, c'est les valeurs universelles.
On verra sans doute plus loin.
C'est ça qui m'émeut. Ouais, c'est ça qui m'émeut. Et notre problème, c'est que ce soit en effet une mise en scène. Et donc.
Justement, on verra plus loin.
Mais elle n'est pas une mise en scène. Je voudrais juste ajouter quand même, ce n'est pas une mise en scène, à mon avis, et je rejoins Régis là-dessus, du côté de ceux qui filment, du côté de ceux qui ont fait. Il y a de la sincérité dans le travail de Moati.
On verra un petit peu plus tard dans l'émission que probablement vous avez eu le temps d'être déçu, de tomber de haut depuis ce fameux Panthéon. On verra ça un peu plus loin. Parmi les réactions
tomber et
les. Le fameux toit. Parmi les réactions et les commentaires qui ont suivi l'annonce de la mort de François Mitterrand, souvent ce parallèle Mitterrand-De Gaulle.
D'un côté, il y avait le général de Gaulle, de l'autre, François Mitterrand. Eh bien, l'histoire et le jugement des hommes fait qu'ils seront les deux grands hommes de cette fin de siècle.
Eh bien, c'est un paradoxe peut-être de l'histoire que Charles de Gaulle et François Mitterrand, ces deux personnages très contradictoires, ces deux contraires, resteront devant l'histoire de notre pays comme les deux hommes d'État les plus marquants de cette deuxième moitié du XXe siècle.
Je dirais que je vois De Gaulle comme un héros d'épopée et que je vois Mitterrand comme un héros de roman.
On pourra remarquer que, comme le général De Gaulle, François Mitterrand est mort dans sa 80e année, exactement dans les mêmes conditions que le général, donc entre 79 et 80 ans.
Alors ça, c'était en mots et même en images, on va le voir dans un instant. Tout ce qui pouvait être fait pour rapprocher visuellement De Gaulle de Mitterrand l'a été. On se souvient de la fameuse image de Gaulle en Irlande après son départ de l'Élysée, qu'on nous a remontré et on a cherché une image de Mitterrand qui était à même de ressembler à celle de Gaulle et on a évidemment trouvé Mitterrand et voilà Mitterrand, image, le parallélisme est recherché et effectivement saisissant là, je crois que c'est à Belle-Île en mer lors d'une des promenades de François Mitterrand, non c'est pas à Belle-Île ?
Si.
Pourquoi vous hochez la tête ?
Parallélisme des images peut-être, mais pas parallélisme des situations.
Voilà, alors on va le dire dans votre série d'articles du Monde qui est paru tout au long de cette semaine, Régis Debray, vous abordez cette question du parallélisme entre De Gaulle et Mitterrand, mais pour le récuser immédiatement, c'est-à-dire pour dire que les deux destinées ne sont pas comparables. Et effectivement, si on imagine les choses, si on prend l'aspect d'image de ces deux destins exceptionnels, on se rend compte, en effet, que les grandes images de De Gaulle et les grandes images de Mitterrand sont d'une nature tout à fait différente. Les grandes images de De Gaulle, c'est ça.
J'invite tous les Français veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Paris outragé,
Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Je vous ai compris.
Jamais attenté aux libertés publiques fondamentales. Je les ai rétablies. Et il y a une seconde attenté. Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Alors, même si, comme je le disais, elles ne sont pas de même nature, François Mitterrand, tout au long de ces deux septennats, a produit aussi des images historiques. On va en voir un premier échantillon.
C'est d'abord une rupture. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste.
3, 2, 1. François Mitterrand est élu président.
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Salut aux prêtres brutalisés, aux syndicalistes emprisonnés, aux chômeurs qui vendent leur sang pour survivre, aux Indiens pourchassés dans leurs forêts, aux travailleurs sans droit, aux paysans sans terre, aux résistants sans armes, qui veulent simplement vivre et vivre libre.
Alors Régis Debray, le Mitterrand d'Épinay, celui qui fait abolir la peine de mort, le tiers-mondiste, c'est le Mitterrand que vous aimez, ou faut-il dire que vous aimiez ?
D'abord, moi j'aime toujours Mitterrand, j'ai beaucoup d'affection pour la personne. Si nous parlons de la politique, c'est autre chose. D'abord, je m'étonne, vous faites une émission sur l'image, très bien, mais ce n'est pas l'image qui fait l'histoire. Ne confondons pas tout. Il est en train de se développer aujourd'hui un parallèle qui n'est pas sérieux entre De Gaulle et Mitterrand. Et dire cela n'est pas du tout désobligeant. Mais écoutez, on ne parle pas de la même chose. Un grand monsieur, un grand homme, c'est compatible. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Commençons par les faits. Le général de Gaulle est un fondateur. Il a, je dirais, instauré deux républiques. Il a rétabli la République en 1944 et puis il a fondé la cinquième. C'est un homme de rupture. Pas de rupture dans les mots, de rupture dans les faits. C'est un homme de guerre. C'est un homme des tempêtes, de haute mer. C'est pas un homme de rivière ou de lac. C'est un homme qui relève du génie. Et le génie n'a pas du tout chez moi un sens mystique. Le génie en histoire, c'est très simple. C'est avoir un coup d'avance sur l'événement, voire deux. C'est de pouvoir dire en juin 1940, le problème n'est pas de savoir si on gagnera la guerre, le problème est de savoir quelle place nous aurons dans la paix.
Mitterrand avait-il du génie ?
Je crois que Mitterrand est plus réactif à l'événement que préemptif, comme De Gaulle. De Gaulle anticipe toujours. J'ai fait un livre qui s'appelle « À demain De Gaulle » où j'ai précisément essayé de faire une réflexion sur les deux hommes. C'était en 1989. Et quand j'ai relu les déclarations de politique étrangère du général De Gaulle depuis 1958, j'étais stupéfait de voir qu'il avait toujours 2, 3, 10 ans d'avance. Je ne crois pas qu'on puisse dire la même chose du président Mitterrand, mais écoutez, ce n'est pas du tout le diminuer que de reconnaître ça. Il se trouve que le général de Gaulle avait des instruments d'analyse de la réalité historique qui lui permettaient de dire que l'Union soviétique, ce n'était pas sérieux, qui lui permettaient de dire que l'Allemagne se réunifierait et de déclarer la réunification inéluctable en 1958, où ça ne se faisait pas beaucoup, qui lui permettait de dire en 1967, lors de la guerre des six jours, que les Israéliens allaient occuper des territoires, qu'il y aurait une résistance, et que c'était en quelque sorte une victoire très dangereuse pour les Israéliens eux-mêmes. qui lui permettait, bref, de dire dès 1958 qu'entre la Chine et l'Union soviétique, ceux qui parlaient de totalitarisme ou de bloc de l'Est étaient des imbéciles. Bref, quand vous lisez cet homme, vous trouvez un homme qui, je dirais, est toujours en avant du moment, est toujours en avant de l'instant. Et le génie, c'est ça. On dit toujours, non, ce n'est pas du tout. Bon, le général de Gaulle n'était pas un conservateur, enfin. C'est un homme qui a été condamné à mort par l'establishment. C'est un homme contre lequel on a fait des attentats physiques. C'est un homme qui a risqué sa vie plusieurs fois, qui a suscité, non pas de l'animosité, mais de la haine. Mmh. Et dire tout cela n'empêche pas de reconnaître en François Mitterrand un immense talent. Et de même de reconnaître une puissance d'incarnation de la France, je dirais de la France éternelle, à la limite plus que de Gaulle. Mais ce n'est pas, nous ne sommes pas dans le même registre, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. L'homme de guerre n'est pas l'homme de paix. L'homme qui se coule dans des institutions n'est pas celui qui crée des institutions. Ce sont, je dirais, deux registres, deux genres. Et encore une fois, il faut un peu de sens historique, regardez les faits. Ce n'est pas un jugement moral que je porte, c'est simplement, je crois, un jugement d'historien élémentaire. Je ne sais pas si Louis Plenel sera d'accord avec moi.
Vous dites que l'image n'est pas l'histoire, mais c'est vrai.
Ne la fait pas.
Mais enfin, ici, on aime bien regarder les images. Mais oui. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que les deux montages parallèles qu'on vient de vous montrer, là, vont dans le sens de ce que vous dites. Puisque toutes les images de Gaulle que nous avons montrées sont des images qui restent et qui resteront.
Oui.
En revanche, trouver l'image de Mitterrand qui restera dans l'histoire est singulièrement compliqué. Et la seule réforme forte de 1981 qui n'a pas ensuite été anéantie par les années qui ont suivi, qui est l'abolition de la peine de mort, tout à fait paradoxalement, ce n'est pas Mitterrand qui emporte l'image, c'est Badinter à la tribune de l'Assemblée.
Justement, toujours sur le registre l'image, il y en a un qui, alors on peut oublier, je vais faire des anachronismes, mais il y en a un qui en permanence, dès qu'il a une pause, revient par écrit, rend compte par écrit de ce qu'il a fait, les mémoires de guerre, les mémoires d'espoir. Il y en a un autre qui s'enferme avec El Kabach pour faire des mémoires audiovisuelles, alors qu'on dit que c'est le second qui est soi-disant, je ne veux encore une fois, le grand homme d'écriture. Okay ? Mm-hmm. Bon. Donc, je veux dire, c'est bien le problème. Hein. C'est-à-dire que l'image, justement, l'image, c'est le kaléidoscope, ça bouge, ça varie, ça fonctionne à l'amnésie, ça fonctionne à l'oubli, l'écrit oblige de retravailler, de rendre compte. Bon. Et donc, c'est extraordinaire quand même le montage que vous avez fait. Il est accablant, parce que vous commencez par ce discours sur la rupture. S'il y a une vie qui n'est pas une vie de rupture,
en 1971.
Bien sûr, et qui est une vie qui accumule sans arrêt des strates, on va en reparler, qui ne rompt avec rien dans son passé, c'est celle-là. Bon, par ailleurs, une fois dit ça, on est en écho, Régis et moi, je ne partage pas tout à fait, je dirais, comment dire ça, la quête du grand homme. Pour moi, il y a des événements qui appellent et qui révèlent des gens. Je veux dire, le De Gaulle, qui écrit les discours de Pétain dans les années 30, n'est pas un grand homme. Je veux dire, l'histoire, le moment le révèle. Je veux dire, bon. Donc il y a des moments où tout d'un coup, c'est l'histoire qui vous transforme. Moi, je crois
Mitterrand, on a traversé des moments quand même, on va en reparler, mais il a traversé la Deuxième Guerre mondiale aussi.
Oui, mais on va y venir justement. Pardon, c'est que ces moments historiques.
Le De Gaulle qui dit en 1933, ce sont les chars qui gagneront cette guerre, n'ayons pas une stratégie de retard.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des grands événements historiques où on voit qui se comporte comment et comment. C'est ça que je veux dire. Et après, d'une certaine manière, on est enfermé, on est un peu transformé par son destin. Parce qu'on représente.
Il y aurait une autre discussion, c'est de savoir lequel des deux est le plus moderniste. La réponse officielle, c'est évidemment François Mitterrand, qui est un Européen, qui est un fédéraliste, l'autre qui est un rétrograde, un maurassien. Je ne sais pas d'ailleurs qui est le plus maurassien entre nous. Nous en reparlerons peut-être. Moi, il me semble que si François Mitterrand est l'homme de demain, De Gaulle est l'homme d'après-demain. Mais là, c'est déjà, je dirais, un choix politique, ou en tout cas une vision de l'histoire qu'on peut ne pas partager. Mais il est possible qu'après la construction européenne reviennent la nation et la République. On avait toujours dit que c'était l'inverse. Il y aurait la nation d'abord et la fédération européenne ensuite. C'est peut-être pas comme ça que l'histoire marche. Mais en tout cas, ça, c'est une autre discussion qui sera importante parce que je répète, le grand homme est celui qui a toujours un temps d'avance. C'est très coûteux d'avoir un temps d'avance. Généralement, ça vous fait rentrer chez vous, ce que De Gaulle a dû faire à plusieurs reprises.
Pendant 11 ans.
C'est aussi un autre fait. De Gaulle est lié à une certaine. Je veux dire, la démission de Gaulle n'est pas exactement le départ de François Mitterrand.
Mais ça n'a rien à voir.
C'est autre chose. Voilà, homme.
Il n'invente pas la cohabitation, lui.
Voilà, un homme disant. Ce n'est pas, je dirais, c'est pas seulement.
C'est terrible, les désamours, quand même.
L'intransigeance contre la vileté. De quel désamour parlez-vous ?
Je parle de moi, je crois.
Ah oui.
Je trouve un peu trop passionné.
Non. Écoutez, je trouve qu'il ne faut pas mettre De Gaulle à toutes les sauces. Vous savez, l'échelle de temps où De Gaulle se place n'est pas celle où nous nous plaçons. C'est une échelle de siècles. C'est très rare que des peuples aient des gens comme De Gaulle. Il y a Napoléon, il y a Charlemagne, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et François Mitterrand est un très grand monsieur qui a fait... Qui a fait beaucoup de choses, mais
pour...
qui a plus fait d'images et de symboles peut-être que de choses, alors que De Gaulle a fait des choses.
Quand même, aussi. Alors, pour revenir à Mitterrand et à l'image, après les grandes images que nous avons vues, il y a eu un autre Mitterrand en image, c'était en 1988, ça a peut-être marqué, Régis Debray, la période de votre éloignement avec lui, et c'était pendant la campagne pour le renouvellement de son mandat, ce fameux clip publicitaire dont on se souvient encore. Ce clip, Régis Debray.
C'est la première fois que je le vois, je vous avoue.
Non,
oui,
c'est
non. Seulement.
On ne peut pas vous croire.
C'est la première fois que je le vois. Non, la deuxième campagne, le deuxième septennat, moi, j'étais c'était pas dans le coup du tout. C'était pas du tout mon histoire. Et c'était une histoire qui était très bien menée, la preuve. Mais ça ne m'intéressait plus. Il n'y avait plus d'enjeu. Il n'y avait plus de valeur. Il y avait des... Bon. Petit système, disons, c'était le ralliement au parti dominant. Donc, je ne me sentais pas vraiment motivé. Mais cela dit, c'est très bien fait.
À quel moment avez-vous décroché ?
Écoutez, là, c'est des affaires qu'on élucide mal. Vous savez, le décrochage ou le désamour, comme vous dites, n'a d'ailleurs pas été pour moi un désamour, ça a été un décrochage. Et à un moment donné, j'ai cessé d'adhérer à une politique dont je ne voyais plus bien la vision qui l'animait. Et donc, j'ai préféré retourner à mes études, car au fond, moi, je n'ai pas fait l'ENA, je ne suis pas membre du Parti Socialiste, je n'ai pas de carrière politique ni de mandat de député. Je faisais ça, je dirais, bénévolement. Hein. J'ai donné 7 ou 8 ans de ma vie à un grand monsieur et, je dirais, à une grande cause. Mais là où je ne vois plus la cause, je garde mon affection pour le monsieur, mais je me dis, bon, bah, écoutez, j'ai peut-être autre chose à faire. Voilà, c'est le tout.
Alors, dans les derniers mois de la vie de François Mitterrand, les apparitions télévisées de l'ancien président ont énormément changé de nature. Ça aussi, c'est une composante du Mitterrand télévisuel. Et finalement, le spectacle qui est devenu dominant a été une sorte de long tutoiement avec la mort.
Il s'agit d'un cancer de la prostate.
Oui, je sais bien, une maladie, au fond.
Comment voulez-vous que je fasse ? Je pense que... C'est un combat honorable à mener contre soi-même. Je me sens très, très en paix avec moi-même.
Je vous remercie.
Vous savez, je me trouve devant des échéances qui ont un rapport avec la sincérité.
Régis Debray, ce long tutoiement télévisuel avec la souffrance, la maladie, la mort.
Plus qu'honorable, très élégant.
Y compris devant des caméras.
En vidéosphère, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de choses privées. Personnellement, je n'aime pas ces déshabillages, hein, le sens de la pudeur, mais je trouve que François Mitterrand garde une très belle et noble réserve.
Plenel ?
Je suis très gêné, moi, très embarrassé, parce que ce sont des choses qui ne se disent pas. Ce que je veux dire, l'homme privé... Indéniablement, grand courage, grande leçon personnelle, mort à l'antique, très, très beau. Mais quand même, il représente le pays, Et dans des moments délicats, politiquement, pour le pays, y compris pour la mémoire collective du pays, et je pense, l'image, la chute qu'on a vue, je traverse des moments difficiles, c'est les explications sur Vichy. Eh bien, on a vu cet homme public, d'une certaine manière, comment dire, oui... J'essaye de trouver le mot le moins dur, mais prendre sa vie privée et ce qu'il a probablement de plus intime, c'est-à-dire ce combat avec la mort, comment dire, en partie en bouclier, à partir du moment où la maladie est
alors,
là.
Ce qu'il faut rappeler à l'appui de ce que vous dites, c'est que le deuxième extrait qu'on vient de voir était un long entretien avec Jean-Pierre Elkabbach dans lequel deux thèmes avaient été abordés, d'abord Vichy et ensuite la maladie.
Voilà. Et donc, bon, moi je crois, bon, moi, je suis de ceux qui pensent que bon, à certains moments, quand on est trop occupé par soi-même, et je le comprends tout à fait, parce que la maladie est un combat, je veux dire, on est moins occupé par les affaires publiques. La France a perdu des années, hein, on le voit bien dans les problèmes que nous avons vécus. Et je crois, bon, on a une sorte de révérence dans ce pays. Aucun éditorialiste n'aurait dit, la situation de François Mitterrand, logiquement, il devrait passer la main. Bon, mais au-delà de ça, moi j'ai été choqué.
Vous dites, avec une expression qui n'est pas très belle, c'est celle que j'ai employée, pour faire passer la pilule, pour schématiser, il prend sa maladie,
c'est ça que vous dites ? C'est comme ça que j'ai ressenti. Comprenez-moi bien. Vous êtes... Il y a une concomitance. Il y a cette révélation sur un passé occulté qui est au cœur de la mémoire.
Vichy.
Qui est cette relation avec Bousquet, etc. Il y a des explications qui ne tiennent pas la route. Un président qui est féru d'histoire, qui oublie le statut des Juifs français. Bon. Et le même président, au même moment, il y a une conjonction, il y a sa maladie. Il pourrait dire, écoutez, on est là pour parler. Je vais m'expliquer, mais ma maladie, ce n'est pas votre affaire. Je m'en débrouille. Je n'y réponds pas.
Régis Debray, vous pensez aussi que François Mitterrand s'est servi de sa maladie comme d'un bouclier pour éluder les attaques relatives à son passé ?
Je n'ai pas d'avis. C'est peut-être pas exactement ce que disait Edoui Plenel.
C'est comme ça que je l'ai vécu, que je l'ai ressenti.
Que ça ait pu jouer, pourquoi pas le dire, au moment de Maastricht aussi, ce référendum a été gagné à la marge, peut-être par une réaction émotionnelle devant la découverte d'un homme fragile dont c'était le dernier combat, mais je crois que ce serait prêté des...
Il y a une question qui...
Ce serait prêté, je dirais, des intentions ou des calculs un peu bas à un homme qui n'a jamais été bas. Donc, je refuse d'entrer dans ces considérations.
Il y a une question essentielle, Régis Debray, dans cette histoire, qui est justement le rapport du public et du privé. Je crois, et y compris les journalistes et les hommes d'image, que la préservation de la sphère privée, c'est une bataille essentielle.
Oui.
Okay. Quand le politique mêle le privé et le public, met le privé sur la scène publique, eh bien, il fait une mauvaise pédagogie civique.
Je ne suis pas en désaccord.
Ce qui veut dire que vous êtes en accord.
Pas loin.
Oui, je pense que la vidéosphère a donné des nouvelles coordonnées à la vie politique. L'une est tout d'un coup la focalisation sur la vie et les valeurs privées, remplacement de l'idéal de justice par les pratiques de charité, par exemple. C'est un acte de charité, ça se filme, une aumône. Un sac de riz, la justice, elle ne se filme pas. Donc,
Mitterrand
je réprouve complètement ça.
Ou il a été acteur de cette évolution.
Je pense que Mitterrand a accompagné cette évolution.
Bravo, vous êtes très diplomate.
Non, c'est pas du tout. Je pense que Mitterrand a accompagné son temps, de façon générale. Il a accompagné l'évolution de la télévision, d'ailleurs. Donc, on commence par la grandiose austérité républicaine et on finit par la fesse de Moruzzi sur la table, parce qu'on passe d'une forme à une autre. D'un monde de valeurs et de discours à un monde de confidences et d'anecdotes. Et cette privatisation du politique, il l'a accompagnée parfaitement. Elle a des effets pervers considérables. Et ça a permis, effectivement, de remplacer, le bilan d'une politique ou la vision de l'histoire par...
Le bilan d'un homme, de sa vie privée.
Les vues d'un homme,
voilà.
Les gros plans sur un homme, ce que vous faites fort bien... et qui, hélas, sera le jour où on fera, c'est beaucoup trop tôt, le jour où on reviendra de façon dépassionnée sur tout cela, on verra que, notamment en politique étrangère, le gouvernement par les symboles, ça ne tient pas la mer. On n'a pas une politique en Yougoslavie parce qu'on va à Sarajevo passer quelques heures avec le journaliste de Paris Match.
Là, vous pensez aussi à François Mitterrand, qui est une autre image,
on n'a pas le temps de passer. Je pense à cette sorte de gouvernement par l'image qui a été instauré en lieu et place de l'action sur les choses. Et il est vrai que le président Mitterrand en a magnifiquement joué. Alors, peut-être que les politiques ne peuvent plus rien faire d'autre que de la mise en scène. Peut-être n'ont-ils plus cette puissance qu'Edoui Plenel leur prête. Il est vrai qu'Edoui a considérablement contribué à la légendaire du prince par la pardon, n'est-ce pas ? La pardon, c'est toute cet imaginaire de la puissance du prince tapis dans l'ombre, dont le bras est long et qui manipule et qui téléguide, etc. Je ne dis pas que c'est ça ce que fait Edoui, mais il réveille en quelque sorte une sorte d'illusion monarchique, à savoir que le puissant décide. Le puissant est impuissant. Le puissant ne peut rien faire. Il ne fait que des belles images et des voyages qui sont des voyages postiches, qui ne remplacent pas une politique. Et on fait, je dirais, l'humanitaire, le droit de l'homme, enfin tous les vœux pieux, consensuels, etc.
Alors, vous avez largement commencé à amorcer le débat, l'image de François Mitterrand.
Oui, je l'ai provoqué un peu sur la pardon.
Non, mais voilà, Daniel Schneiderman ne veut pas que je réponde.
Je voudrais surtout qu'on vienne à un sujet que je vous importe et qui est Vichy. Oui. Vous avez largement commencé à l'aborder. Il est vrai que les révélations tardives sur le passé vichysois et l'amitié avec Bousquet de François Mitterrand ont terni, brouillé, abîmé son image. Ce sont des aspects qui ont été abordés par les télévisions françaises toute cette semaine à l'occasion de la mort de Mitterrand, avec cependant une certaine timidité qui n'a pas été le fait des télévisions étrangères qui, elles, ont beaucoup insisté sur cet aspect des choses, comme on va le voir.
La sua attività politica inizia all'interno di gruppi di studenti di destra, quindi all'opposto di quella militanza di sinistra che segnerà poi tutto il resto della sua vita.
Erst gegen Ende seiner Amtszeit veröffentlichte Briefe belegen, dass Mitterrand zunächst für das Vichy-Regime arbeitete, im Umfeld des von Hitler eingesetzten Präsidenten Pétain. Für viele Franzosen im Nachhinein ein Schock.
But he was haunted by the ghosts of his past. This photograph shows a young Mitterrand with Marshal Pétain. The revelation that he'd been a fervent supporter of the Pétain government, which collaborated so enthusiastically with the Nazis, reopened France's most painful wounds. His ambiguous past reflected the contradictions in the French nation.
Les dernières images qu'on vient de voir, Edouard Plenel, sont celles de la BBC. Est-ce que c'est pas un peu trop quand même? Est-ce que montrer Hitler et montrer la Wehrmacht sur les Champs-Élysées à propos de la biographie de Mitterrand, est-ce que c'est pas un subterfuge de montage un peu outrancier?
Pas raccourci là quand même.
Non, il y a, c'est totalement pertinent sur une idée qui est un peu le négatif de ce que disait Régis Debray tout à l'heure. Désir de nation dans cette émotion, etc. Et quel est le rapport de François Mitterrand à cette nation? Quelle est la pédagogie qu'il a faite? Et en ce sens, je dis que les monarques font quelque chose quand même. Ils font une pédagogie, même les monarques impuissants, politiquement impuissants. Eh bien, la pédagogie, c'est de dire toute cette histoire est mienne. C'est ça la pédagogie de François Mitterrand. C'est de dire, voilà, oui, j'ai été nationaliste, j'ai fréquenté les Croix de Feu, j'ai eu des copains cagoulards, j'ai été vichysois, j'ai été pétainiste, j'ai même failli Laval, après j'ai joué la résistance par Freinet, après De Gaulle, après, etc. Et tout ça s'accumule. Et toute cette histoire est mienne. La pédagogie qu'il fait à la nation, c'est de dire tout ça. C'est-à-dire que la nation ne se construit pas dans la rupture avec des moments. Et je trouve qu'il y a... On est dans une émission d'images, dans cette histoire où on va voir les photos. C'est-à-dire que l'histoire de Bousquet, elle est extraordinaire. C'est qu'à ce moment-là, ça veut dire que quelle pédagogie on fait à cette nation? On fait une pédagogie où on met des cadavres dans le placard, où on ne les affronte pas. On sait très bien, ce sont des images de la BBC. Vous savez très bien que la BBC, par exemple, c'est elle qui a fait le meilleur documentaire sur la guerre d'Algérie. C'est pas nous. Il y a eu un très très bon documentaire. Bon, dans le rapport à ce qui est lourd dans la mémoire collective. Bon, on sait qu'on a quelques cadavres. On a Vichy, on a la guerre d'Algérie. Hein, on a peut-être mai 68 un peu qu'on aime oublier. Bon, qui est moins grave.
Mais ce que dit le montage de la BBC, quand même, c'est ce que dit le montage, sans parler du texte, c'est Mitterrand a été un hitlérien.
Non, un fervent supporter du régime pétainiste qui. Voilà. Bon, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté. Le livre de Péan, les documents sortis. Le livre de Pascal Froment sur René Bousquet que j'ai amené, il n'y a aucune ambiguïté. C'est-à-dire, ça n'enlève rien à ce qu'il est devenu. Moi, encore une fois.
Livre de Pascal Froment dans lesquels ont été révélées des photos de Mitterrand et de Bousquet, qu'on est en train de voir à l'antenne en ce moment, et qui montrent que, bien après la guerre et jusqu'aux années 80, Mitterrand a continué à commercer, à avoir des relations avec l'ancien chef de la police de Vichy.
Ça va au-delà. Cette photo, c'est la photo cachée de cette vie et de cette vie politique. Cette photo est prise en avril 1974. Régis Debray est déjà à côté de François Mitterrand. Donc en avril 1974, on est en pleine campagne présidentielle, après la mort de Pompidou. Et il y a un week-end familial à Latché. Il y a Daniel Mitterrand, il y a Roger Alain, il y a toute la famille. Il y a un week-end familial à Latché, et il y a un photographe qui vient, qui s'appelle Manuel Bidermanas. Et puis il prend, et il y a des amis. Et il y en a d'autres, photos que celles-là qui ont été publiées par la suite, etc. Donc il y a des amis. Il y a René Bousquet qui est là sur les photos. Il y a probablement également Jean-Paul Martin qui a été un des principaux collaborateurs de Bousquet et qui va devenir tout de suite le directeur des cabinets de Mitterrand, ministre de la 4e République. Et donc, bon, cette photo, c'est le secret. C'est le secret.
Sur cet aspect de la vie de François Mitterrand.
Écoutez, c'est sur cet aspect de la France, si j'ose dire, sans jeu de mots. Moi, je n'admets pas le raccourci outrancier et manichéen de ces journalistes étrangers. La France, c'est très complexe. C'est Mitterrand qui a accompagné toute l'histoire de France, a accompagné, je dirais, toutes les couches sociales et toutes les contradictions idéologiques françaises. Il est vrai que de Gaulle a reconstruit une histoire de France utopique en 1944. Pour que ce pays se redresse, il leur a expliqué que... Il nous a expliqué que les résistants étaient l'expression de l'essentiel de la nation et que le reste n'était que broutille. Bon, tous ceux qui ont vécu cette période savent que ce n'est pas vrai. C'est une partie évidemment très, très pénible, moi qui me mets mal à l'aise, bien sûr. Je dois avouer que je n'en fais pas une question de principe, je ne monte pas sur mes grands chevaux, comme on dit, je m'attriste. Mais j'ai trop conscience des ambiguïtés de l'histoire, j'ai trop conscience de la difficulté de se tailler un chemin dans cet extraordinaire maquis. En plus, disons le mot, Mitterrand n'a été ni pétainiste, ni gaulliste, Mitterrand est giraudiste. Alors évidemment, peut-être que les téléspectateurs ne savent pas très bien qui est Giraud.
Disons que Giraud, les trois ensemble.
Oui, mais
les trois
son axe. Il a cessé d'être giraudiste au moment où il n'y avait plus de Giraud comme ressource de pouvoir. Mais il sait profondément.
Non, mais c'est il y a une question un giraudiste très, très important. Il y a une question très simple et
horrible. Il n'a jamais cessé de l'être, si j'ose dire. Il a été un giraudiste de A à Z. Il faudrait savoir qui est Giraud, il faudrait expliquer comment on peut être à la fois maréchaliste et anti-nazi. Un rival
américain de Gaulle pendant l'occupation.
L'homme des Américains, oui.
L'homme des Américains. Oui. Il y a une question qui est quand même très simple.
Et un homme d'un courage très grand.
Ces photos avec Bousquet, cette photo avec Pétain, ces révélations, si vous les aviez connues en 81, vous auriez voté Mitterrand ?
Le problème ne se serait pas posé si le livre de Péan avait été sorti en 1980. François Mitterrand n'aurait pas pu être candidat.
Cette photo, elle paraît, cette photo qu'a révélée Pascal Froment, elle paraît dans un numéro du Point en 1974. Bon. Et refait l'histoire, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, et refait même l'histoire de vos combats. Hein. Je veux dire, l'affaire Papon dressée contre Giscard, toujours on joue sur ce passé, fin des années 70. Problème dans l'Union de la gauche, le STO contre Marchais. Et là, ben, y a le masque de fer, Bousquet.
Attendez, est-ce qu'il faudrait parfaire toute l'histoire de la République, l'histoire du sud-ouest de la France, l'histoire de la Dépêche du Midi, l'histoire du Parti radical, pour montrer que c'est très compliqué.
C'est compliqué,
la République.
Ce que je dis.
Et que dans la République, ça traîne des tas de choses pas très propres.
Bon.
Et puis, il faudrait faire l'histoire de la franc-maçonnerie. Bon. Et puis, il faudrait faire l'histoire de beaucoup d'institutions qui, avec quoi, malheureusement...
Pourquoi le cacher ? Pourquoi ne pas en rendre compte ?
On a fait un peu de collaboration. Après tout, je crois qu'il y a beaucoup de députés socialistes, SFIO à l'époque, qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Oui.
Le problème n'est pas celui-là.
Il faut faire de l'or, quoi. Le travail.
Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est de dire au pays, de cacher ça. On peut dire, voilà, bah oui, j'ai été ça. J'ai évolué, j'ai changé. Et j'ai compris, et j'ai appris.
Il l'a dit, François Mitterrand.
Non.
J'en ai expliqué. D'abord, il a parlé avec Péan, autant que Péan lui a posé.
Il dit, mais tout ça n'était pas grave. Et il dit, et d'ailleurs, regardez, de toute façon, c'est une pétaudière, Vichy. Et puis d'ailleurs, de toute façon, le statut des Juifs, c'était pour les étrangers. Il oublie qu'il y a eu un statut des Juifs français. Il a oublié que c'est une histoire française. Ton problème, quand tu parles de la nation, c'est que, et de cette quête de grand homme, c'est de ne pas voir que tout ça, c'est une histoire française. Et j'ai pas aimé de dire, je n'aime pas le regard de ces journalistes étrangers. Anglais, hein, ils sont anglais, je veux dire, et puis peut-être qu'on n'a pas de leçon, à leur donner.
Étrangers aux douleurs de notre histoire et aux nuances de notre histoire et aux chronologies de notre histoire. On ne peut pas parler de cette période si on ne dit pas que 40 n'est pas 42, que 42 n'est pas 44.
Rendons compte de cette histoire d'abord.
Je suis d'accord.
Faisons le ménage dans nos placards. Mm-hmm. La guerre d'Algérie, on a fait le ménage ?
Non,
toujours pas.
Celle d'Indochine non plus. Est-ce que les Anglais ont fait le ménage sur l'Irlande ? Je ne suis pas sûr.
Je veux dire, la dernière saloperie des services de renseignement, des services des SAS britanniques, hein, l'exécution à Gibraltar, la Cour européenne leur a donné raison, de 4 types de lira exécutés par les SAS, c'était il y a 5 ans. Révélation, 3 mois après, révélation, 1 heure d'émission à la BBC. C'est la BBC qui révèle ça.
Écoutez, vous me mettez en porte-à-faux, n'est-ce pas ? Moi, je ne...
Maintenant que vous vous tutoyez, on peut
continuer. Je ne veux pas du tout accabler François Mitterrand pour cet épisode de sa vie que je regrette profondément, qui m'attriste.
Mais je suis bien d'accord. J'espère que nous aurons simplement réussi à faire un peu de clarté sur les parts d'ombre et de lumière d'une destinée exceptionnel, Pascal.
Alors effectivement, je vous remercie d'être venu d'abord. On va continuer cet échange et puis peut-être qu'il y aura d'autres occasions. Je vous signale, c'est... Oui, Edouard Plenel,
c'est de la publicité pas clandestine. Je pense que au-delà de cette émission, il faut absolument lire ce qu'écrit Régis Debray sur Mitterrand dans Le Monde. Voilà. Parce qu'on a pu s'accrocher. C'est une double publicité. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a pu s'accrocher. C'est que je pense que c'est le portrait le plus loyal et le plus fidèle.
Six papiers tout au long de la semaine dernière.
Voilà. Merci Régis Debray, merci Edouard Plenel. Si vous êtes tombé au milieu de cette émission et que vous le regrettez déjà, eh bien, je vous signale qu'il y a une rediffusion le mardi à 15h sur la 5e. Le prochain numéro d'Arrêt sur Image, ce sera samedi 18h sur la 5e également. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Thank you.